On avait commencé à expliquer hier, Bezrat Hashem, quelle est l'importance dans la Torah, d'après la Torah, d'avoir des bonnes midot. C'est-à-dire que, on sait que la Torah nous recommande d'avoir des qualités de cœur, des vertus, et non pas des défauts. Au contraire, lorsqu'on a des défauts, il faut rapidement les réparer avant qu'ils s'installent en nous. Entre parenthèses, plutôt on fait un effort, disons, d'arranger nos défauts, disons, d'acquérir des bonnes midot, eh bien c'est mieux. Pourquoi? Parce que plus une midara'a, un défaut, s'installe en nous, plus c'est difficile à s'en débarrasser. Imaginez, quelqu'un qui s'énerve, il est coléreux, il pique des crises de nerfs. Alors quand ça dure quelques jours, bon, éventuellement ça passe. Mais imaginez quelqu'un qui s'énerve tous les jours, pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Alors c'est sûr qu'en fin de compte, ce sera plus difficile de se débarrasser de sa colère. Quand quelqu'un qui a fumé la cigarette pendant 1 semaine, il veut arrêter, c'est plus facile que quelqu'un qui a fumé pendant 10 ans ou 20 ans. Par aussi, la colère, quand elle s'installe dans la personnalité, dans le caractère, c'est plus difficile à s'en débarrasser. Quelqu'un qui est nerveux, ou qui est jaloux, ou alors qui est vaniteux, pendant 10 ans, pendant 20 ans, 30 ans, c'est encore plus difficile à s'en débarrasser en fin de compte. Donc, c'est pourquoi c'est toujours bien de se débarrasser de ses défauts le plus tôt possible. Top. On avait expliqué hier que il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important d'avoir des qualités de cœur. Première raison, c'est de pouvoir s'arranger dans la vie pour avoir une vie plus agréable, plus harmonieuse, parce qu'évidemment quelqu'un qui va se mettre à tricher, à mentir et à voler à droite et à gauche, tout le monde va s'écarter de lui. Et c'est pourquoi c'est bien, c'est recommandé d'avoir de bonnes midotes. Mais cependant, on avait aussi expliqué qu'il y a une faiblesse dans cette approche. Pourquoi? Parce qu'en effet, eh bien, c'est limité aux conditions, aux circonstances. C'est-à-dire que quelqu'un qui va par exemple habiter dans un désert ou dans une forêt, il pourra se dire « je me passe des vertus et des qualités de cœur ». Top. Mis à part ça, qu'on peut aussi flancher si on a une approche comme ça uniquement pour s'arranger dans la vie. Enfin, je peux dire, d'aujourd'hui, avec telle personne, tel voisin, tel cousin, je me passe d'avoir des bonnes idoles, je me passe de m'arranger avec lui. Top. Deuxième raison qu'on avait citée, c'est avoir des bonnes midotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la morale qui nous le recommande. C'est la conscience humaine. C'est bien, c'est important, parce que, évidemment, voler ou alors tricher, c'est pas poli, c'est pas honorable, c'est pas respectueux, c'est pas une façon de se conduire. Bon, là aussi, on a expliqué que ça a une faiblesse, parce qu'en effet, c'est limité selon des circonstances humaines et non pas divines. Troisième raison qu'on avait expliquée, pourquoi avoir de bonnes midotes, c'est pour tikkun hanefesh. Comme on a un corps, on a aussi une âme. Et cette âme, elle a aussi sa perfection. C'est-à-dire que notre âme, elle a aussi ses membres, ses parties, ses particules. Et quand on a des qualités de cœur, ce sont ces qualités qui composent, qui constituent notre âme. Et plus on va avoir de bonnes midotes, plus notre âme, elle sera parfaite. Bon, on poursuit aujourd'hui. La quatrième raison pour laquelle c'est bien d'avoir des qualités de cœur et de se débarrasser de nos vices et nos défauts. Ça s'appelle koach hanetina, c'est-à-dire la volonté de vouloir donner. Dans la vie en général, on peut donner ou alors prendre, recevoir. Dans la nature humaine, il y a des gens qui ont tendance à vouloir beaucoup donner. D'autres qui ont tendance à vouloir beaucoup prendre, beaucoup recevoir, exploiter autrui le maximum possible. Alors là aussi, on va déclarer, on va supposer que la Torah nous demande d'avoir des qualités de cœur. Pourquoi? Pour que tu puisses donner le maximum possible à ton entourage, à ta famille, à tes voisins, à tes camarades. Et on voit en effet, dans le monde entier, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se mettent à donner. On donne la tzedaka, on donne de l'argent aux pauvres, on aide des gens qui sont malades, on s'occupe d'eux. Il y a des gens qui construisent des bâtiments entiers, ne serait-ce que pour donner. Dans tous les domaines, dans le domaine de la médecine, dans le domaine d'une aide financière, trouver du travail. Bon. En général, évidemment, la nature humaine, c'est de vouloir prendre, recevoir. On a tendance à vouloir exploiter autrui. Et là, la Torah nous dirait, eh bien, attention, c'est bien d'avoir des qualités de cœur. C'est-à-dire que si tu te rends compte que tu es un homme qui est égoïste, il faut s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'un homme égoïste ne pourra pas donner. Ou quand il va donner, ça sera très très peu. Ou quand il va donner, ça sera aussi évidemment pour recevoir en contrepartie. C'est uniquement parce qu'il a une pensée, une arrière-pensée, de vouloir recevoir en contrepartie. Et donc, débarrasse-toi de ton égoïsme pour que tu puisses donner. Quelqu'un qui est habitué à voler, à mentir, il ne pourra pas donner. Parce qu'il est toujours en train de prendre de façon aussi qui n'est pas justifiée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'avoir des qualités de cœur, d'étoffer les qualités que tu as de façon innée. C'est important d'adopter, d'acquérir de nouvelles qualités que tu n'as pas encore et de te débarrasser des défauts et des vices que tu as pour que tu puisses donner le maximum possible. Bon. Alors on va faire encore une parenthèse dans ce domaine-là pour expliquer quelle est l'importance du fait de donner, d'apporter quelque chose, un bienfait, quelque chose qui va réconforter autrui. Alors tout d'abord, on se rend compte que même si la nature humaine, c'est un certain égoïsme, mais cependant, il y a aussi une nature humaine de vouloir donner. On se rend compte que pourquoi est-ce qu'une personne veut se marier et avoir des enfants? Bon, plusieurs raisons. Une des raisons, pourquoi avoir des enfants? Parce que on veut ressentir que lorsqu'on quitte le monde après 120 années, eh bien, on a laissé quelqu'un qui puisse être la suite de notre personnalité, de notre personne. Pas qu'on quitte le monde et puis que notre nom a disparu de cette terre, mais qu'on a laissé quelqu'un qui est la suite de notre personne, de notre famille. Autre raison, une personne veut avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle veut donner à ses enfants. Parce qu'en effet, on a beau vouloir donner à des camarades, à des voisins, mais c'est jamais autant que ce qu'on peut donner à un enfant, à son fils ou à sa fille, ou aussi à ses petits-enfants. C'est-à-dire que Hachem aussi a créé en nous cette envie de vouloir donner aux enfants. Non seulement cette envie, cette capacité de vouloir donner de façon infinie. Des parents peuvent faire pour leurs enfants bien plus qu'ils feraient pour d'autres personnes. Pendant des années, on se lève chaque nuit, n'est-ce pas, s'occuper d'eux quand ils sont malades. Alors on va voir tous les médecins, on dépense un argent fou pour les enfants. On est prêt à faire monts et merveilles pour les enfants. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a en nous cette force-là de vouloir donner. De donner, n'est-ce pas, à ses enfants. Même des gens qui n'ont pas d'enfants, Khaïla, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adopter des enfants. Pourquoi? Pourquoi se compliquer la vie? C'est plus difficile, n'est-ce pas, éduquer un enfant. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est fatigant, ça réveille la nuit. On va absolument donner. Même si on n'a pas d'enfant, eh bien, on va adopter un enfant pour pouvoir lui donner. Donc, en fait, c'est une force inouï qu'Hachem a créé en nous de vouloir donner à autrui et surtout aux enfants. Top. Et en fait, sans cette force extraordinaire, on n'aurait jamais pu élever un enfant. Parce que c'est tellement difficile, ça prend tellement de temps, tellement de souffrance. Il y a les problèmes, les tracas, les soucis de l'enfant quand il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand il a 15 ans, d'autres problèmes. C'est-à-dire, il y a un problème en Israël, ils disent... Il a dit Mouktanim, Baot Tanot, il a dit Mouktanim, Baot Delot. C'est-à-dire que des enfants petits sont des petits problèmes, les grands enfants, ce sont des grands problèmes. Et en fait, c'est pas vrai, quand les enfants petits, on ne s'en rend pas compte. Quand ils grandissent, on s'en rend compte parce que l'enfant, il a déjà une conscience, une intelligence, il a déjà sa volonté, c'est plus difficile à l'élever. Top. Et donc, c'est cette force qui va faire qu'on veut donner à un enfant le maximum possible. Non seulement cela. On se rend compte que plus on donne à une personne, à un enfant ou un étranger, eh bien, plus on va l'aimer en fin de compte. Il y a plusieurs recherches qui ont été réalisées dans ce domaine-là. On s'est rendu compte que des parents qui avaient un enfant qui était malade, chas v'shalom, et cet enfant, ils sont occupés de lui pendant des mois, des années, chez les médecins, les hôpitaux, etc. En fin de compte, ils se sont attachés plus à cet enfant que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de force, plus de réflexion par rapport à cet enfant. Et plus tu donnes à un enfant, plus tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que tu as investi une partie de ta personnalité, une partie de toi dans cet enfant-là. Pas uniquement un enfant, même un voisin, un étranger, un camarade, plus on lui a donné, plus on va l'aimer. Ceci est un des conseils de Rav Dessler dans Mirtam Eliyahu, Chalek Aleph, par rapport au Shalom Bayit dans un couple. Et bien, il dit que quand il y a des problèmes dans un couple, la meilleure solution, c'est de s'habituer à donner le maximum possible. Plus un homme va donner à son épouse, plus une épouse va donner à son mari, et bien plus ils vont créer des contacts qui vont être très solides. Et les problèmes commencent quand on ne veut pas donner, on veut uniquement tout recevoir. On se marie et on attend que tout soit servi sur un plateau d'argent. On attend de recevoir, on n'est pas prêt à donner quoi que ce soit, on n'est pas prêt à faire un effort dans quelconque domaine. Et ça crée aussi des problèmes, même au niveau de l'amour, de l'affection. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de couples, eh bien, avaient auparavant, quand ils étaient fiancés ou au début du mariage, un amour, comme on dit, à la folie, extraordinaire. Après quelques années, ça s'est estompé, il ne reste plus grand-chose. Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est un couple qui est uniquement en train d'exiger, en train de demander, en train de prendre, de recevoir. Personne n'est prêt à donner. Et en fait, n'est-ce pas, l'amour se crée par le fait de donner. Plus tu donnes, eh bien, tu te lies à la personne à laquelle tu as donné. On a aussi constaté que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, malheureusement, il y avait des fois des parents qui étaient séparés de leurs enfants. Et ensuite, quand miraculeusement, ils se sont retrouvés, après 5 ans, après 10 ans, eh bien, les parents se sont rendus compte que l'enfant qu'ils ont élevé à la maison, ils étaient plus attachés que l'enfant qu'ils les avaient quittés. Bien qu'on aurait pu imaginer le contraire. Parce que l'enfant qu'ils ont quitté, eh bien, ils avaient encore plus d'amour pour lui, a priori. Ils étaient déchirés par le fait qu'on a enlevé l'enfant. Mais le temps a fait du sien. Pendant 5 ans qu'ils ont élevé cet enfant à la maison, ils se sont attachés à lui. Alors que l'enfant qui a grandi seul, même lorsqu'ils se sont trouvés après 5 ans, eh bien, il y avait une certaine indifférence sentimentale qui en fait les déranger, les torturer encore plus. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas assez donné à cet enfant. Alors en fait, dit Rav Dessler, l'amour se crée par le fait de donner. Plus tu donnes à quelqu'un, plus tu vas l'aimer, plus tu vas créer des contacts extraordinaires avec lui. Et c'est pourquoi la Torah nous dit qu'on a une mitzvah d'aider quelqu'un qui est en train de porter un fardeau qui est difficile à porter. Il faut l'aider. La Torah nous dit, eh bien, lorsque tu vois quelqu'un qui est en train de peiner avec son fardeau, avec sa charge, il faut l'aider. Et si c'est une personne que tu n'aimes pas, que tu hais, il faut l'aider encore plus, il faut lui donner la préférence. Plus qu'un camarade à toi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une raison, c'est pour vaincre, maîtriser son etc. Une autre raison, parce que quand tu vas l'aider, tu vas lui donner, tu vas apporter ton aide, ton soutien, eh bien, tu vas petit à petit éliminer, effacer cette haine que tu as par rapport à lui. Quand tu l'auras aidé, tu vas lui donner, eh bien, tu vas créer des liens amicaux entre toi et lui. Donc, en fait, conclusion, c'est pourquoi c'est tellement important de donner à autrui. Parce qu'en fait, le fait d'aider, de soutenir, de donner, eh bien, ça va créer des liens extraordinaires entre les personnes qui sont entraînées. Et donc, par conséquent, on pourrait supposer que la finalité essentielle des Midot Tovot, la Torah nous demande d'acquérir des qualités de cœur. Pourquoi ? Pour que tu puisses donner. Parce que quelqu'un, évidemment, qui est égoïste, quelqu'un qui est égoïste, eh bien, il ne voudra pas donner. Même, prenez un autre cas, quelqu'un qui est nerveux, qui est coléreux. Même s'il a tendance à donner, eh bien, sa colère va beaucoup le déranger dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que dès que tu as piqué une crise contre une personne de la famille, un camarade, un voisin, eh bien, tu lui as fait un tort terrible. Tu as fait, n'est-ce pas, un dégât presque irréparable. Par la colère, par les nerfs. Quand on s'énerve, on dit des paroles que jamais on n'aurait dit. Après, une fois qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, on regrette et on se dit, c'est pas moi, j'ai dit des paroles, c'est pas ce que je pense, c'est terrible, je regrette amèrement. Et donc, par conséquent, ça serait important et efficace d'avoir des qualités de cœur, de s'habituer à être patient. Pourquoi ? Pour éviter de causer un dégât dans quelconque domaine à la personne envers laquelle on va s'énerver. Parce que si on s'énerve contre elle, eh bien, on ne lui donne pas, mais au contraire, on va lui transmettre, n'est-ce pas, quelque chose de négatif et de nocif. Top. Alors en fait, il est vrai que c'est déjà un niveau plus élevé que ce qu'on a cité auparavant. C'est-à-dire que le fait de vouloir acquérir des qualités de cœur pour pouvoir donner le maximum possible, c'est un niveau très élevé. Mais cependant, ça a aussi ses faiblesses et ses problèmes. Pourquoi ? Parce que si on s'en tient uniquement à cela, on se dit, je veux être un homme patient, je veux être un homme qui fait du chesed pour pouvoir donner au maximum possible. Alors, on le fera, mais uniquement dans certaines normes, certaines conditions. Par exemple, on pourra dire, je suis prêt à donner, mais celui-là, il ne mérite pas. Celle-là, elle ne mérite pas. Avec tout le tort qu'il m'a fait, tout ce que j'ai souffert de lui et d'elle, je ne suis pas prêt à lui donner. Cette personne ne mérite pas que je lui donne mon soutien, mon aide, mon conseil, elle ne mérite pas. Alors, que ce soit vrai ou faux, entre parenthèses, c'est faux. Pourquoi ? Parce que toute personne mérite au monde. Tu n'es pas là pour décider est-ce qu'une personne mérite ou pas. Par exemple, c'est écrit dans Pirkei Avot que n'importe quelle mitzvah de la Torah, eh bien, pour être récompensé, ce monde matériel dans lequel on vit, il ne suffit pas pour te donner la récompense, ce monde entier. C'est-à-dire que même si tu te mets à réunir tous les plaisirs et les bienfaits, tous les plaisirs et les jouissances que les milliards d'êtres humains ont joui, ont bénéficié depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui aux quatre coins du monde, ce n'est pas suffisant pour te donner la récompense d'une seule mitzvah de la Torah. Même la mitzvah la plus petite. Alors quand tu vas décider qu'une personne ne mérite pas ton aide, ton soutien, c'est archi faux. Pourquoi ? Parce que cette personne, même s'il a fait une seule mitzvah, elle mérite 10 000 fois plus que ce que tu peux lui donner toi. Tu ne peux pas t'imaginer ce que cette personne mérite de recevoir. Alors c'est faux de dire, celui-là, celle-là, elle ne mérite pas que je lui donne, que je l'aide, que je soutiens. C'est faux, parce que de toute façon, elle mérite. Même s'il a fait une seule mitzvah au monde, dans la Torah, ça suffit. On revient à notre sujet. Donc, c'est le problème, c'est que lorsqu'on a une approche une approche pareille, que je vais avoir des bonnes midot, pourquoi ? Pour pouvoir donner. Il y a une faiblesse parce que je risque de flancher et de dire, je suis prêt à donner, mais à qui donner ? Je donne aux gens qui méritent. Bon, on a expliqué que c'est faux. Mais de nature humaine, on peut se tromper et dire, cette personne, je ne lui donne pas. Deuxième problème, je peux dire, ok, je suis prêt à donner, mais maintenant, je n'ai pas envie. Maintenant, je suis fatigué. Maintenant, je n'ai pas le temps. Maintenant, j'ai d'autres choses plus importantes à faire, à réaliser, que de donner mon soutien, mon aide, mon argent à telle personne. Et donc, on va, encore une fois, limiter notre aide, notre soutien. On va limiter notre tikkun amidot. Parce qu'on va le barricader dans certaines normes, certaines circonstances bien spéciales, bien spécifiques. Et la Torah ne veut pas de cela. La Torah nous demande plus que cela. Les midot, c'est l'essence de la personnalité. C'est l'édifice de ta neshama, de ton âme, de ton caractère. Et ça mérite d'être édifié de façon qui n'est pas transformable, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves. C'est ça les midot. C'est quoi un homme qui est patient? Un homme qui est toujours patient. Un homme qui fait du chesed, qui fait toujours du chesed. Si tu le fais une fois, non, donc c'est pas véridique. On va entrer dans un magasin et on vous salue bien. Bonjour monsieur, madame, mademoiselle, s'il vous plaît, je vous en prie, etc. Patati patata, c'est la politesse qu'on connaît. Est-ce qu'on vient vous donner ? Pas du tout. On vient soutirer votre argent, point final. Une personne est intéressée à vendre sa marchandise, ses vêtements, ses aliments. Alors il est prêt à être très poli, même au plus que parfait, de façon même exagérée, pour pouvoir vous séduire. Apprendre sa marchandise, ce n'est pas un don, ce n'est pas un soutien. Au contraire, il est en train de vous exploiter. Il a appris les techniques. Comment vous soutirez votre argent, comment vous exploiter. Et il y a des fois des psychologues qui donnent des conseils. Comment, n'est-ce pas, comment convaincre un patron de vendre sa marchandise à telle ou telle boîte, telle ou telle usine. C'est-à-dire qu'on t'explique. On t'explique comment convaincre une personne que pour lui, ça vaut la peine d'acheter ta marchandise. Et en fait, il vient pas t'aider, il vient t'exploiter. Alors, des fois, c'est bien aussi pour toi, je dis pas non. Mais dans son esprit, il n'est pas là pour t'aider, il est là pour t'exploiter. Et en fait, c'est pas ça la finalité de la Torah pour tes amis d'autres. Au contraire, on veut te créer, on veut te donner, on veut t'inculquer un tikkun amidot qui soit parfait dans toutes les circonstances, toutes les situations possibles. Je ne dis pas que le chesed qu'on fait de temps en temps, c'est pas du chesed. C'est du chesed, sûr et certain. Quelqu'un qui donne tzedaka une fois, non. C'est sûr que c'est une tzedaka extraordinaire. C'est pas, notre sujet, c'est pas le chesed de la tzedaka. Notre sujet, c'est le tikkun amidot. Pourquoi avoir des bonnes midot? C'est-à-dire qu'il y a un but dans la Torah, un but qui est essentiel, c'est d'étoffer nos qualités de cœur, nos vertus. Éviter les défauts et les vices. Les connaître pour les réparer, les arranger. Pourquoi c'est si important? Quelle approche? Quelle est l'approche idéale dans ce domaine-là? Maintenant, même si on flanche, t'entends, c'est pas grave. Ce qui est important de savoir, c'est j'ai un travail pendant ma vie, pendant des dizaines d'années. Pendant des dizaines d'années, je m'habitue à être un homme patient. N'est-ce pas? On dit dans la Mida tous les jours. Trois fois par jour, on dit « Venafshi ki afar la koltier ». Que mon âme soit comme de la poussière. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas si on m'a vexé, on m'a insulté, ça ne me dérange pas. Que je sois un homme qui soit très tolérant. Alors, nos sages m'ont instauré de dire ça tous les jours, trois fois par jour, donc plus de 1000 fois par an, donc des dizaines de milliers de fois dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est un travail qui est à vie. Parce qu'être un homme patient, un homme généreux, un homme tolérant, etc., un homme qui est modeste, c'est un travail de dizaines d'années. Alors, ce qu'on a intérêt de savoir, c'est parce que ce travail-là, ce n'est pas uniquement dans l'action, fait du chesed, dans la tzedaka. C'est quelle est l'approche idéale pour pouvoir réaliser cette finalité si importante de façon la plus parfaite possible, premièrement. Deuxièmement, quel est le chemin à suivre? C'est que si je me dirige vers ce rivage-là, cette finalité, et je me dis, je veux être un homme patient, un homme modeste, etc. Pourquoi? Parce que je veux m'arranger dans la vie. Je veux avoir des rapports qui sont pacifiques avec la société. Ou alors, parce que je veux être un homme qui soit un homme, comment on dit, humanitaire. Un homme qui ait de la morale, qui ait bonne conscience. Ou alors, parce que je veux arriver au tikkun hanefesh, je veux, n'est-ce pas, avoir une âme qui soit parfaite. Ou alors, parce que je veux donner. Alors, tout ça c'est bien, mais c'est limité. C'est limité et ça risque de flancher. Donc, ce qu'on va expliquer, c'est quel est en fait le but essentiel, d'après la Torah, d'acquérir des bonnes midot. Ça, c'est écrit dans le Rambam. Rambam, dans l'Ilchot Deot. Dit le Rambam, on a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'alachta Bidrachav. C'est-à-dire, une mitzvah de la Torah, on doit suivre les chemins d'Hachem. Et dit le Midrash, Ma'u Kadosh, Afata et Kadosh. Comme Hachem, il est saint, il est sanctifié, toi aussi, tu dois te purifier et sanctifier. Ma'u Rachum, Afata et Rachum. Comme Hachem, il a pitié d'êtres humains, toi aussi, tu auras pitié. Comme Hachem va voir les malades, toi aussi fais-le. Hachem, il va consoler les gens qui sont endeuillés, toi aussi va les consoler, etc. C'est-à-dire que, lorsque on va réaliser un travail de tikkun amidot, de vouloir avoir des qualités de cœur, eh bien, on doit être conscient de cette notion. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? C'est quoi le but essentiel? C'est suivre les chemins d'Hachem, plus précisément, ressembler à Hachem. C'est écrit « Ze Eli ve'anvehu »« Ve'anvehu et Edomelo ». Comme Israël en traverse la mer Rouge, eh bien, ils ont comme le ciel s'est ouvert, plus ou moins, et ils ont comme vu, si on peut s'exprimer ainsi, Hachem, et ils ont dit « Anvehu ayez Edomelo ». Ils ont voulu ressembler à Hachem. Et en fait, Hachem nous a créés, de prime abord, Adam Arishon, avec cette faculté, avec cette caractéristique, de lui ressembler. C'est écrit, Betselem Elohim Aset Adam, Bidumut Elohim Asaoto. Hachem a créé l'homme à son image. Hachem veut que l'homme lui ressemble. L'homme ressemble à Hachem. Quand tu vas être un homme patient, pourquoi être patient pour ressembler à Hachem? Hachem aussi, quand tu fais une avéra, il est patient. Il attend un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans que tu fasses tchouva. Il ne va pas punir tout de suite. Quand tu vas être un homme qui est modeste, ressemble à Hachem. Quand tu fais du chesed, tu vas aider quelqu'un qui est en difficulté. Pourquoi? Pour ressembler à Hachem. Alors, ce qui est important, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est tout d'abord l'importance et la définition de cette notion. Et deuxièmement, qu'avec une optique pareille, eh bien, c'est carrément infaillible dans tous les cas. Donc, on va leur expliquer.
Quand on demande d'être modeste,
par rapport à Hachem,
j'ai du mal à comprendre.
Il y a un midrash qui est ramené dans Tomer Dvora, Perekal, je crois. On dit le midrash que Hachem est appelé Melech Alouf. C'est-à-dire que les malachim, les anges, appellent Hachem un roi qui est humilié. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait une avera, on est en train de déranger Kavirchol, de perturber Hachem. On va expliquer cela. Et c'est Hachem qui nous a donné la vie, qui nous a créés et qui nous donne la vie à chaque instant. Notre respiration, le rythme cardiaque, etc. Tout ce qui se passe dans notre corps et notre âme, c'est Hachem qui nous le donne à chaque instant. Amchadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Hachem, il renouvelle tous les jours, constamment, la création du monde. C'est-à-dire que non seulement l'être humain, mais aussi le monde, eh bien, c'est comme s'il est créé de nouveau à chaque instant. C'est, entre parenthèses, c'est-à-dire on peut illustrer cela par l'exemple qu'on a cité hier. C'est qu'en fait, eh bien, la structure de la matière est composée de molécules, d'atomes, protons, neutrons, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a plus de vide que de concret. Et en fait, comme ça tourne constamment, eh bien, c'est ce qui va donner la densité, la forme de chaque objet, chaque élément. Alors en fait, qu'est-ce qui fait tourner ces particules-là de façon constante? C'est Hachem qui fait tourner. C'est-à-dire que Hachem, constamment, il fait tourner, oui, il y a une loi scientifique, c'est vrai, mais c'est Hachem qui fait tourner, n'est-ce pas, ces particules dans la matière. Et sans cela, tout s'écroule. C'est-à-dire que le monde, si Hachem ne lui donne pas cette survie constante, il s'écroule à l'instant même. Alors Hachem nous donne cette survie constamment. Lorsqu'une personne fait une avera, quand quelqu'un va faire quelque chose qui est interdit par la Torah, même si c'est une grave avera, même si c'est l'idolâtrie, eh bien Hachem, à cet instant-là, lui donne la force de faire la avera. Lui donne la force, la survie, lui donne la respiration, l'intelligence de faire la avera, de faire quelque chose qui va à l'encontre d'Hachem. Donc Hachem, il te donne la force de comme te battre contre lui. C'est pourquoi disent les anges, Hachem, il appelait un roi qui est humilié constamment et il supporte ses insultes constamment par des milliards d'êtres humains. C'est pourquoi Hachem, c'est, disons, la modestie à l'infini, qu'on peut imaginer. Il a créé un monde, mais il a créé un monde avec la possibilité de détruire. C'est écrit dans Advounot que Hachem a donné la possibilité à l'homme de détruire tout ce qu'il veut, quand il veut. Il y a une seule limite qu'Hachem a fait, c'est que l'homme ne pourra jamais détruire le monde entier. Impossible. Là, si l'homme veut détruire le monde, Hachem intervient. Mais avant cela, Hachem peut laisser à l'homme le fait de détruire constamment. Et bien que c'est une force qui est contre Hachem. C'est ça, c'est une modestie de la part d'Hachem, c'est qu'il te laisse. Il te laisse faire même ce qui va à l'encontre de lui. Alors en fait, pour insister cela, dit le Tomer Dvora, Rabbi Moshe Cordovero nous dit, c'est que lorsqu'on va ressembler à Hachem, et bien c'est pareil aussi. C'est quoi? Et bien c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient à l'encontre de toi, quelqu'un qui te fait du tort, qui te dérange, et bien, non seulement il faut supporter, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire, de rien faire. Bon, des fois, il faut empêcher la chose, quelle qu'elle se fasse, des fois, il faut reprocher, etc. Bon, selon le cas et les circonstances. Mais, mis à part cela, il faut, dans ce que tu ressens, il faut s'habituer, s'initier à comme ne rien sentir. Ne pas être ébranlé, ne pas être vexé parce qu'il t'a dit ce qu'il t'a fait. Comme on dit dans la tefila, ce qu'on a dit auparavant, « Venafshi ke'afa » la colti, que mon âme, elle soit comme de la poussière, que je sois dérangé par rien du tout. Je répète encore une fois, on doit agir. d'une certaine façon, il faut se concerter avec la Torah, Gorabanim, pour demander comment agir, comment réagir par rapport à tes situations. Mais en contrepartie, dans ce que tu ressens, tu ne dois pas être ébranlé, dérangé, tu dois comme pardonner. Tu réagis pour l'aider à sortir à la personne qui t'a dérangé d'arrêter la avéra, pour inciter la personne de ne pas insulter, de ne pas mépriser, de ne pas faire du tort à tort à travers. Mais dans ce que tu ressens, tu dois t'initier à être un homme qui est patient. Non seulement cela, dit le Tomer Dvorah, il dit encore plus, c'est qu'une personne qui t'a fait du tort, tu dois continuer à lui faire du bien. Comme par exemple, dans un couple, ou alors des parents avec leurs enfants, ou alors des camarades, etc. Eh bien, des fois on peut dire, il m'a fait ça, eh bien je ne donne plus rien. Plus d'argent, plus de soutien, plus de camaraderie, c'est terminé. Là c'est un tort. Parce qu'au contraire, on te dit, tu dois continuer à lui donner ce que tu estimes, évidemment, qui est bien que tu lui donnes. Des fois tu peux lui donner, c'est mauvais. Bon, on peut donner pas beaucoup d'argent à un enfant, et on sait qu'il va se saouler au bistrot d'à côté ou faire des bêtises. Dans d'autres domaines, alors évidemment, mieux vaut ne rien lui donner. Bon, là aussi, c'est chaque cas étudié à part. Mais, de par rapport à ta neshama, ton âme, on te recommande, c'est que, pas parce que tu as été vexé ou insulté ou dérangé ou perturbé, que tu dois arrêter de donner ce que tu donnais à telle personne, ce que tu penses qui est bien de lui donner pour son bienfait spirituel. Pourquoi le faire? Je dis, il ne mérite pas. Non, mérite ou pas, ce n'est pas ton affaire. D'abord, il mérite, parce qu'il a fait une mise au moins. Deuxièmement, ce n'est pas ton affaire. Troisièmement, pourquoi? Parce que je veux ressembler à Hachem. Et Hachem nous donne la vie, nous donne la possibilité de vivre, n'est-ce pas, sur cette terre, bien qu'on fait des averot, bien toi aussi. Donne la vie, donne de ton temps, ton énergie, ton argent, ton soutien, tes conseils à la personne qui est en train de te perturber, te déranger. Pourquoi? Pourquoi ressembler à Hachem? Et c'est pourquoi on a dit que là, ça devient infaillible.
Ressembler à Hachem.
Valarta bidelchav. Suivre les chemins d'Hachem. Alors évidemment, tu as raison, c'est que ressembler à Hachem, c'est un niveau très élevé. Évidemment. C'est pourquoi la Torah nous l'a énoncé d'une façon différente. La Torah s'inscrit Valarta bidelchav. Tu dois suivre les chemins d'Hachem. Prendre une démarche qui va t'approcher d'Hachem. Ça, c'est ce que la Torah a inscrit. Maintenant, il y a une dracha. Une dracha, Véandéou et Domélo. Parce qu'en fait, c'est plus difficile à énoncer. C'est pourquoi c'est écrit de façon cachée. Ressemble à Hachem. Parce qu'en fait, la finalité, c'est de lui ressembler. La démarche à suivre, tu suis son chemin. Hachem fait du chesed, fait du chesed. Hachem va voir les malades, va toi les voir, etc. La finalité, le but, c'est quoi? C'est ressembler à Hachem. Que dans ta personnalité, eh bien, tu fais du bien. Pas que pour donner, pas que pour aider, pas uniquement pour avoir une âme parfaite, pas pour s'arranger dans la vie, pas pour être un homme qui est humanitaire, qui est de l'humanisme, mais pour ressembler à Hachem. Et dans cette optique-là, avec cette approche, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On pénètre dans un monde qui est éternel. On va avoir accès à des notions qui sont éternelles. Parce que si on fait des fois des comptes pour donner, pour si, etc., alors on s'est limité. Des fois oui, des fois non. Mais lorsque tu dis je le fais, parce que je veux ressembler à Hachem. Alors tout d'abord, Hachem, il le fait de façon illimitée. De façon qui dépasse notre imagination. Alors nous aussi, on doit le faire de façon qui est limitée. Et deuxièmement, c'est que quand tu le fais parce que tu veux ressembler à Hachem, alors tu t'accroches, n'est-ce pas, à Hachem qui est infini. Tu te rapproches d'Hachem qui, lui, qui est infini. Alors tout d'abord, tu réalises quelque chose qui est du domaine de l'infini, du domaine de l'éternel. Pourquoi? Parce que tu as défini ton chesed, ta tzedaka, ta tolérance, ta patience, etc., par le fait que cette action-là, cette parole, ce ressentiment, eh bien, ça provient d'une volonté de vouloir ressembler à Hachem. Donc tu l'as catalogué dans un monde qui s'appelle ressemblance à Hachem. Sur les chemins, la démarche de Hachem. Donc c'est déjà défini et catalogué dans un monde qui est éternel, un monde spirituel, un monde divin. Et encore plus important que cela, c'est que quand on suit cette optique, eh bien, c'est plus facile de résister dans n'importe quelle circonstance n'importe quelle situation. C'est-à-dire que lorsqu'on a limité notre travail, alors dès qu'on n'a pas envie, on n'a pas le temps, on est fatigué, on décide que cette personne ne mérite pas, etc., alors on va à côté, on dérape, on flanche, on fait autre chose. Alors que quand tu t'accroches à une force qui est infinie, une force qui est spirituelle, tout d'abord, tu reçois toi-même une force divine. Hachem te donne une force divine parce qu'en effet, tu t'es relié à une force qui est divine et spirituelle. Et deuxièmement, psychologiquement, tu te dis, pourquoi je le fais? Parce que je veux ressembler à Hachem. Alors, ressembler à Hachem, c'est toujours le faire. Alors en fait, ça devient presque infaillible, à moins qu'on soit évidemment dépassé, débordé. Mais a priori, quand on le fait parce qu'on veut ressembler à Hachem, je ne vais pas commencer à dire, est-ce qu'il mérite ou pas? Est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que dans ces conditions, il faut le faire ou pas? Je le fais toujours parce que je ressemble à Hachem, et Hachem, il fait du bien toujours. Alors, en fait, c'est pour cette raison que nos sages nous ont énoncé certains bienfaits, certaines récompenses qu'on peut recevoir immédiatement dans ce monde-là lorsqu'on a fait preuve d'une tolérance exemplaire. On sait bien que, dit la Gemara, Kola bolem piv, ena olam omed, ela bemish bolem piv, bechad machloket, shenemar toleretz albelima. Le monde tient, dit la Gemara, à la fin de Choulin, le monde tient sur quelqu'un qui sait fermer sa bouche lorsqu'il y a une dispute, une querelle, une friction. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on se dispute de se taire. Quelqu'un qui arrive à le faire, eh bien, le monde tient sur lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait quelque chose qui est exemplaire. Il a fait quelque chose qui est une façon de ressembler à Hachem. Comme Hachem se tait quand tu l'as insulté, quand tu as fait une avéra. Hachem te laisse vivre, attends la tchouva, te donne, n'est-ce pas, la vie pendant des années et des dizaines d'années. Toi aussi, tu te tais, tu es tolérant, tu n'as pas de coupéda, pas de rancune. Eh bien, le monde tient sur toi. Pourquoi? Parce qu'en effet, Hachem fait tenir le monde. Quand tu ressembles à Hachem, eh bien toi aussi, c'est comme si tu fais tenir le monde. Le Midrash aussi dit que quelqu'un qui veut critiquer une personne et qui s'en retient, eh bien, il bénéficie à cet instant d'une lumière divine que aucune créature au monde ne peut imaginer. Pourquoi? Même principe. Parce que là aussi, eh bien, quand tu critiques pas, eh bien, tu ressembles aussi à Hachem. On voit aussi dans plusieurs midrashim que Hachem n'a pas dévoilé, pas dénoncé les personnes pour ne pas dire de la chanara. Et automatiquement, eh bien, tu reçois une lumière divine spirituelle parce que tu t'es rapproché, tu t'es accroché à un monde divin, un monde spirituel. Pourquoi est-ce que nos sages disent que dans un couple, une famille, il y a ce qu'on appelle Ashra'at Ashrina, la présence divine parmi eux. Zahu Shrina Bene. Dans le mérite de bien se conduire, d'être tolérant envers l'autre, eh bien, la Shrina repose parmi eux. Même principe. Parce qu'en fait, quand tu deviens tolérant, quand tu es indulgent, quand tu passes l'éponge, tu pardonnes, eh bien, automatiquement, tu as ressemblé à Hachem. Tu t'es rapproché d'Hachem. Hachem, il réside parmi toi. Quand tu te rapproches à Hachem, tu lui ressembles, Hachem, lui aussi, se rapproche de toi. Tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Et automatiquement, eh bien, il va résider au sein de ton foyer. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on adopte cette conduite, cette démarche, on s'habitue, on s'initie à avoir de bonnes midot. C'est-à-dire que c'est un travail pendant des dizaines d'années de m'initier à être un homme patient, de m'éduquer à être un homme modeste, un homme qui fait du chesed, d'atzaka, etc. Et je le fais non pas pour un intérêt personnel, pour avoir des rapports pacifiques avec la société, ou alors pour un autre intérêt, etc. Mais je le fais pour me rapprocher d'Hachem, suivre les chemins d'Hachem, ressembler à Hachem. Alors, lorsqu'on s'habitue à cela, petit à petit, d'abord, on acquiert les midot, deuxièmement, on ressemble à Hachem, Hachem réside parmi nous. Et notre travail, il devient un travail qui va être concret, stable et surtout qui va être éternel, qui va être infaillible. Pourquoi est-ce que les gens se fatiguent? Les gens, ils se mettent à donner. Après un an, deux ans, ça y est, j'en peux plus, c'est terminé. La tzaka, on donne la tzaka, n'est-ce pas? Ça y est, il y a trop de tzaka, on demande trop de tzaka, je peux plus. Pourquoi est-ce qu'on se fatigue? Parce que on a, dès le départ, limité notre travail. Parce qu'on le fait pour des raisons qui sont personnelles, ou même qui sont spirituelles, mais c'est pour donner. Enfin, c'est pour aider les gens. C'est bien aussi, mais c'est limité. C'est pour avoir une âme qui est parfaite. C'est bien, mais c'est limité. Quand tu le fais pour ressembler à Hachem, tu donnes la tzaka, ressemble à Hachem. Alors je ne dis pas, il y a des halakhot. Combien donner, etc. C'est sûr que même quand on ressemble à Hachem, on doit aussi vérifier comment le faire, quand le faire, dans quelles circonstances. Mais cependant, ce qui est important, c'est que c'est infaillible, on ne se fatigue pas. Parce que tu te rapproches à Hachem, et Hachem, évidemment, c'est du domaine de l'infini. Quand on s'habitue à ce travail de midot, eh bien, automatiquement, on peut arriver à des résultats, des scores qui sont inimaginables dans les midot. Et ça peut être une base extraordinaire aussi pour toute notre Torah et nos mitzvot qu'on fait tous les jours. Matzlacha.